Bonjour mon cher Laurent Philippot, journaliste à France Bleu Normandie.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le Pire Reste à Venir. Vous l'entendiez, bonjour mon cher Laurent Philippot, journaliste à France Bleu. C'est notre invité de ce matin. Bonjour Laurent.
Bonjour JC, bonjour à tous.
Voilà, j'ai été reprendre une petite archive d'un petit moment.
Le placard
moment,
archive.
C'est ça, j'ai pas pu résister. C'était Émilie Lecomte qui te saluait sur un plateau télé, mais on en reparlera dans un instant. Et d'ailleurs dans la séquence, tu disais pareil, hein, bonjour Émilie et bonjour à toutes et tous.
Oui.
Tu vois, c'était une espèce de formule consacrée, c'est ça ?
Consacrée, puis un petit peu de convivialité, un petit peu de lien, c'est important.
Parfait. J'espère, Stella, que tu as pris des notes sur le bonjour. Bonjour, Stella.
Bonjour à toi, JC.
Et bonjour à toutes et à tous.
Oui, bonjour à toutes et à tous.
C'était Stella. Ça. Qui nous accompagnera également durant cette émission. Aujourd'hui, nous recevons Laurent Philippot, comme je le disais, journaliste à France Bleu. Ce sera l'occasion de discuter journalisme, technique de journalisme, journalisme de proximité même. Veut dire quoi d'être en lien avec les gens, finalement. Nous parlerons également service public, parce que quand on est à France Bleu, eh bien, on n'est pas à TF1 ou à BFM, on est à France Bleu. Et ça veut dire quelque chose. Nous parlerons également technique journalistique, comment on s'y prend. Vous l'aurez compris, nous passons la matinée, enfin en tout cas cette matinale, avec France Bleu.
C'est l'or, il est l'or, l'or de se réveiller.
Le pire reste à venir.
Le pire reste à venir.
De 8h à 9h.
De 8h à 9h.
Sur HDR et Principatif.
Et oui, parce que quand on a un petit problème technique au démarrage, j'ai oublié de dire qu'on était sur HDR, que c'était la fréquence du sud du département de l'Eure, de l'agglomération d'Évreux, voilà, qu'on rayonnait ce matin pour envoyer de la bonne humeur.
Radio internationale.
Pour envoyer de la bonne humeur, du bon son, tout un tas de choses, quoi, et discuter ensemble. Laurent Philippot, je te présente comme un journaliste de France Bleu, mais qui es-tu au-delà de ça? Tu es une voix de reportage qu'on entend régulièrement quand on tend l'oreille sur France Bleu, mais qui es-tu? Tu, Laurent.
Qu'est-ce que tu veux savoir, JC?
Un petit peu, quel est le personnage qu'on a devant nous? Tu sais très bien que le premier échange, c'est on légitime notre invité.
Oui, alors moi j'ai 56 ans, je suis arrivé dans l'Eure en 2001 pour justement travailler à France Bleu, puisqu'il y avait une création, l'ouverture d'un bureau à Évreux. Hein. Jusqu'à présent, la radio était présente à Rouen et au Havre, mais rien dans l'Eure, c'est les journalistes de Rouen qui couvraient l'actualité de l'Eure. Donc en 2001, il y a un bureau qui a ouvert avec deux journalistes. Donc moi je viens de Franche-Comté, au départ de Besançon, comme Stella.
Exactement. Mais alors, t'étais déjà sur France Bleu en Franche-Comté?
Alors,
on sait que le réseau tourne.
On va expliquer peut-être un petit peu comment ça se passe chez nous. C'est-à-dire que au départ, moi, j'ai pas sonné à la porte comme marqué sur son t-shirt, mais j'ai frappé à la porte de France Bleu. Alors à l'époque, ça s'appelait Radio France, de Radio France Besançon, parce que j'avais un stage à faire dans le cadre de mes études. Un DESS. Pour les plus jeunes, un master 2, un stage de 3 mois à faire en entreprise. Moi, j'avais toujours voulu faire du journalisme après le bac. J'avais fait des demandes de poursuite d'études après le bac, mais on m'a dit « Non, vous êtes trop nul. Donc, vous ne méritez pas notre école. » Donc, je suis allé à la fac et j'ai fait un stage donc à France Bleu Besançon, où on m'a dit « Tu sais rien faire, mais comme tu ne coûtes rien, viens. » J'ai fait mon stage et à l'issue de ce stage, on m'a dit on cherche un pigiste. Est-ce que tu veux venir faire des piges le week-end ? Donc j'ai fait des piges le week-end, essentiellement pour faire de l'actu générale et du sport. On fait ça pendant 2-3 ans, puis à un moment, le chef dit « Bon, ça y est, tu es prêt pour aller à Paris avec ta cassette. » Donc tu vas à Paris, c'était une cassette. Maintenant,
oui, à l'époque,
c'était cassette. Bah oui, c'est ça, hein, l'époque du Minitel. Et il y a quelqu'un qui écoute votre cassette, qui dit c'est bon, vous pouvez intégrer le planning de Radio France, donc le planning des CDD, où là il y a un vivier de journalistes qui va faire des remplacements dans toute la France. Donc moi j'ai fait ça dans toute la France, essentiellement dans l'Est, un petit peu dans le Sud, un petit peu en Bretagne. Donc on prend ses valises, on peut nous appeler le jeudi pour dire lundi tu pars un mois à Quimper et puis la semaine d'après tu vas à Tours et puis au bout d'un moment on peut postuler. Donc et après moult candidatures, me voici à Évreux.
Et c'est là où tu poses tes bagages.
Et là c'est là où je pose mes bagages, j'arrive dans l'heure, je dis qu'est-ce que c'est que ce département, parce que je ne connaissais pas du tout. Je me souviens de mon tout premier reportage, moi venant de Franche-Comté, j'avais l'habitude d'un petit peu de relief. Reportage au mois d'août, plateau du Neubourg, champ de colza, à l'infini, je dis, mais qu'est-ce que c'est plat?
Ah bah oui. Il y a de quoi. On reviendra sur justement ces anecdotes et ce fonctionnement journalistique. Durant cette émission, on ouvre avec un premier morceau, c'est l'ouverture officielle des morceaux de l'été. Moi je vous propose, ah ouais non mais tu vas voir, quand on parle morceaux, je t'ai vu les yeux s'écarquiller, quand on parle morceaux de l'été, on parle quand même de morceaux pour nous faire danser, oui, mais quand même avec une certaine exigence. Lawrence. Lawrence, what you want?
Ouais, salut la matinale.
Hi, principe actif.
Bonjour.
Foutez-moi le bordel.
Merci pour l'émission.
C'est toujours une belle ambiance.
I like the mauvaise, mauvaise.
C'était super.
Et passez une bonne journée à la matinale sur 102.4.
Bah, ce matin, pas de message. Voilà, j'étais triste. Ça fait partie des choses qui me lancent, moi, le matin. Dernièrement, vous nous laissiez des poèmes, des petites intentions, des maximes, des dictons, des choses comme ça. Bah, moi, ça me mettait en forme dès le matin. Il est pas trop tard. Il nous reste encore, je crois, une semaine avant les fameuses vacances scolaires où ce sera la trêve de la matinale. Le pire reste à venir. Vous pouvez nous laisser des messages, nous donner de vos nouvelles, nous annoncer un événement ou un poème ou que sais-je. En tout cas, ou une recommandation même musicale, n'hésitez pas. Hein. En tout cas, vous connaissez le numéro 02 32 62 57 32. Nous sommes toujours avec Laurent Philippot, journaliste à France Bleu. C'est un vrai plaisir de te recevoir parce qu'on se côtoie quand même sur le terrain, on se voit régulièrement, chacun dans nos missions. France Bleu, nous, il y a toujours eu un lien, Principe Actif et France Bleu. Je me rappelle, il y a 20 ans, quand on démarrait, avoir été dans le studio qui était à l'époque à côté du tribunal, là, avec les équipes de France Bleu. Bleu qui nous filait un coup de main, qui nous disait comment monter un truc.
Bah, je pense que c'est important quand même.
Il y a toujours ce lien, enfin, il y a toujours eu ce lien avec France Bleu. Bah, vous... des mecs sympas qui nous filent la patte, quoi.
Oh là là, mais c'est gentil. Mais aussi, vous avez des mecs et des filles sympas ici. Et moi, je me souviens d'être venu ici en reportage aussi, il y a quelques années, pour la Journée internationale de la radio. On avait fait découvrir à nos auditeurs un petit peu comment fonctionne cette radio Principe Actif. Parce que finalement, on fait à peu près le même métier différemment, mais on le fait, vous le faites bien aussi. Et vous avez, je trouve, une mission essentielle sur le territoire, que ce soit Évreux, le sud de l'Eure. On vous voit partout. Je sais pas comment vous faites. Parce que nous, on se dit, nous, on aimerait aller partout, puis on n'a pas le temps, et des fois, on n'a pas les moyens, mais...
Les moyens, ça, c'est une autre histoire, parce que nous, on y va sans les moyens. Hein.
Ah, d'accord.
Bah, tu nous as vu quand même. Hein.
Oui,
c'est,
oui.
On y va avec très peu de moyens. Mais effectivement, ça fait partie aussi, j'ai la sensation quand même, d'une ambiance France Bleu, parce que on a eu en 2012 un projet, à l'époque, où on avait travaillé avec France Bleu et France 3 aussi. Et j'en viens à cette notion de service public, en fait, où on a vraiment la sensation que c'est pas une concurrence qui arrive quand Principe Actif arrive sur un projet ou autre, et au contraire c'est une complémentarité. En tout cas, cette sensation que nous on a ressentie, comment vous le voyez vous finalement les autres journalistes sur le terrain et en particulier les radios associatives quand elles arrivent quelque part où vous êtes déjà.
Ah ben il y a pas de concurrence. Moi je trouve que pour les auditeurs c'est bien aussi d'avoir le choix. Après, on a, nous, une grille qui peut ne pas convenir à tout le monde. C'est-à-dire que je pense que la musique qui est diffusée sur Principe Actif, elle n'est pas diffusée sur France Bleu et réciproquement. Les centres d'intérêt sont aussi différents. Moi, je vois pas une radio associative comme un concurrent. Mais effectivement, comme tu disais, j'y sais une complémentarité. Je pense que ce qui est important... Enfin, en tout cas pour moi, dans mon boulot de journaliste radio, dans un département, c'est et à la fois de mettre en valeur un département. On a un département quand même qui est un peu en dessous. C'est-à-dire que bien souvent, moi, une anecdote, quand je suis arrivé dans l'Eure, moi j'étais pas du tout de la région, je viens de Franche-Comté. Et il y a des gens qui m'ont expliqué, alors on était encore dans la région Haute-Normandie à l'époque. Et il y a des gens qui m'ont dit, bon ben, on va vous expliquer ce que c'est l'Eure et la Seine-Maritime. La Haute-Normandie, c'est 76% la Seine-Maritime et 27% l'Eure. Et ça se trouve un petit peu, parfois, les gens de l'Eure ont le sentiment qu'on parle pas assez d'eux, qu'une métropole comme Rouen écrase tout, qu'il y a tout pour les villes. Alors qu'il y a des choses formidables, mais il faut aller, bah, comme vous le faites, hein, à la rencontre des gens, des acteurs associatifs, des acteurs culturels, économiques, sportifs. Il y a plein de choses, donc je pense qu'on peut se compléter. Vous avez un ancrage fort avec des thématiques sociétales, sociales. Nous, on couvre. Moi, je couvre que de l'actualité, hein. Mais ouais, il y a plein de choses à faire ici.
Tu évoquais cette notion de proximité et c'est ce qu'on défend aussi bien à France Bleu en région d'ailleurs et France 3 également. On défend cette notion de proximité qu'on défend aussi à Principe Actif. C'est comment on fait justement pour être en proximité? C'est quoi un média de proximité? Comment on définit alors comment toi tu définis d'ailleurs, c'est même pas France Bleu, c'est toi Laurent, comment tu définis cette notion de proximité quand tu pars faire un sujet? Finalement ça pourrait être un sujet à destination internationale, mais quand tu le tourne, ça devient un sujet de proximité.
Bah, c'est un sujet de proximité. Pour moi, la proximité, déjà, elle est physique. C'est-à-dire que si on veut s'intéresser... Alors moi, je vais prendre le département de l'Eure, parce que c'est ma zone de travail. Déjà, il faut y habiter. Il faut se tenir au courant de ce qui s'y passe. Cette proximité, elle se fait aussi à force de contact. C'est-à-dire que quand moi, je suis arrivé ici en 2001, je connaissais personne. Je connaissais pas les villes, je devais être capable de situer Évreux sur une carte, mais pas beaucoup plus. Ça prend du temps de nouer des contacts, et puis c'est cette proximité, elle arrive aussi avec des rencontres. C'est-à-dire que tu vas en reportage, tu rencontres un tel qui va te parler d'une chose et qui, bah, tu reprends un numéro, puis ça te donne une idée pour un autre reportage. J'ai eu un chef qui disait, quand tu vas en reportage, Tu vas faire le reportage, parce que c'est ce pour quoi t'es payé, tu vas faire le reportage, mais tu dois revenir avec une autre idée de reportage.
Il y a un côté un peu commercial, tu sais, c'est quand j'ai un refus, j'ai deux autres noms pour qui.
Bah oui, mais non, mais c'est ça. Après, c'est vrai que là récemment, j'avais fait un reportage il y a quelques mois dans le cadre de la charpente de Notre-Dame, parce qu'il y a un atelier à Nassandre qui a participé, les charpentiers ont participé à la construction de la charpente de Notre-Dame. Bah, Je l'ai pas vu depuis des mois, le monsieur, mais il m'a rappelé pour me dire, on est en train de faire un super projet sur un moulin et on veut en faire un lieu associatif, tout ça. Et ben voilà, là, on est dans cette proximité. Puis je pense qu'il faut être honnête. Parce que les gens, ils écoutent après les ou pas, mais je préfère quand ils écoutent les reportages. Et si ce qu'ils vous ont dit retranscrit ce qu'ils ont pensé, mais ils se disent bon, ben voilà, il a pas biaisé, il a, ouais, c'est ce que je pensais. Donc après, il y a une confiance qui peut, la confiance, c'est important. Il faut pas trahir les gens.
Il y a aussi une notion humaine dans le reportage. En fait, il y a du reportage technique, mais il y a du reportage dans lequel on peut percevoir quelque chose d'humain. Ça aussi, c'est important.
Ah ouais, ouais, mais c'est essentiel. Moi, ce que j'aime, vous savez, le métier à France Bleu, on est des journalistes polyvalents. C'est-à-dire qu'on peut être sur deux types d'activités. Le reportage, moi, je ne fais que ça. Et la présentation de journaux, j'en ai fait un petit peu. Moi, c'est pas un exercice qui me plaît, parce que j'aime pas forcément être à l'antenne. Mais bon, après, je sais faire. Mais le reportage, c'est quelque chose de super humain. C'est-à-dire que il y a des reportages, on peut dire chiants à Principe Actif.
On peut dire, carrément. Ah bon, on peut dire plein de trucs. Hein.
Ah bon, il y a des reportages chiants. Il faut les faire, mais ça fait partie du boulot. Et puis il y a des reportages, des fois, qui vous donnent, j'allais dire, de nouveau confiance en l'espèce humaine.
Nous, on en fait plein des comme ça.
Bah hein. Ouais. Et ça, c'est un moment, tu te dis, ah ouais, bah cette femme, ce monsieur, cet enfant, il m'a touché. Et je sais pourquoi je fais ce métier. Parce que des fois, bon, après on est français, hein, on râle, ouais, les horaires, machin, dania. Puis des fois, tu rencontres des gens. Moi, je me souviens d'un reportage. Genre, c'est quand j'étais en CDD à Rouen. Parce que j'ai fait un long CDD à Rouen. C'était des femmes qui faisaient une pièce de théâtre. Elles avaient été victimes de violences conjugales intrafamiliales. Et elles avaient mis en onde, sur scène, les violences qu'elles avaient vécues. Moment déjà assez touchant, parce qu'il faut se dévoiler. Et après, j'interviewe des participants. Donc, il y a un gamin, pour moi, 18 ans, qui dit, moi, je suis super fier de ma mère. Donc, tu vois, ça, c'est... Puis, je demande à sa mère, mais qu'est-ce que ça vous a appris, cette pièce de théâtre? Et là, elle me dit, c'était il y a plus de 20 ans, je m'en souviens encore, donc pour dire que ça a marqué, jamais plus un homme me parlera comme il m'a parlé.
C'est forcément touchant. Et j'imagine que ce métier... Tu dois à l'occasion être touché par des par des gens, par des choses qui viennent t'enrichir même humainement. Ouais. Hein, c'est nous on a l'habitude, enfin un principe actif en tout cas. Moi j'ai eu l'occasion, ça fait maintenant quasi une vingtaine d'années qu'on a l'occasion d'aller battre le terrain comme on dit. J'ai la sensation moi d'avoir gagné en culture générale, en rapport humain, en truc. Et moi je crois que c'est le plus bel atout du métier, c'est d'aller d'être légitime à poser plein de questions à plein de gens.
Oui parce qu'en fait quand journaliste, t'as pas plus de culture que les autres finalement, hein, et ce métier permet de, alors par une vraie ou une fausse naïveté, de poser des questions, et puis les gens te répondent, et c'est un enrichissement parce que quand tu vois, ça ouvre aussi des portes que j'allais dire un citoyen lambda n'a pas ouvertes. Et donc, entre faire un reportage sur un plan social, une manifestation, t'apprends plein de choses. Et tu t'enrichis des gens. Mais vraiment, c'est... moi, je remercie les gens. Parce que, et puis, des fois, tu peux avoir aussi des amitiés qui se créent parce que y a des gens... tu te dis, ah ouais, sympa. Donc, tu demandes son Insta.
Sur le choix des sujets, du coup, à France Bleu, tu étais comment? C'est toi qui les proposes? Alors, on te les impose? Il y a des ratios de thématiques, de sujets? Comment ça se passe?
Tous les matins, on fait une conférence de rédaction à 9h15. Donc, nos deux journalistes matinaliers qui ont présenté les journaux font le débriefing de la matinale en disant sujet, c'était bien, ça, il m'a manqué ça, l'invité, pas top ou super, machin. Là, il y a eu un accident. Bon, on fait le bilan de la matinale. Et ensuite, tour de table sur les rendez-vous qui sont déjà pris, parce qu'il y a des rendez-vous un peu institutionnels, une conférence de presse d'un club, je sais pas quoi, enfin bon voilà.
La rentrée scolaire.
ça s'appelle un marronnier. Mais ça, bon, après, il faut chercher par exemple à le renouveler.
Ah oui, non, mais c'est pas simple hein, de renouveler son marronnier.
Ah bah oui, mais moi j'ai fait un stage là-dessus. Ah oui, on a eu le droit. Et après, chacun, pardon.
Et on n'a plus de traitement de son, je suis désolé.
Là, et plus de moyens, mais il faut demander des moyens.
Mais à qui?
Je te fais un mot, si tu veux. Hein. Et après, chacun fait des propositions. Et après, le rédacteur en chef valide ou pas, peut aussi dire, ben tiens, là, j'aimerais bien que tu fasses ça. Moi, je sais que j'aime bien proposer des sujets, parce que bien souvent, les chefs suivent. Parce que si je propose pas de sujet, c'est eux qui m'en proposent et je ferai pas forcément ce que je veux.
Bah, et puis c'est toi qui est sur le territoire, c'est voilà. Que tu es à l'affût aussi de tout ce qui va se passer.
Se dire que je connais un peu, il y a des gens qui me contactent parce que moi ça fait quand même ça va faire 23 ans cet été que je suis dans l'heure, donc je commence à connaître un petit peu de gens, il y a des gens qui me connaissent. Ça aussi c'est un privilège parce que par rapport à une plus grosse équipe, tu vois, la rédaction à Rouen, il y a 8 journalistes. Moi, globalement, je suis l'interlocuteur privilégié pour les gens de l'heure. Donc, France Bleu, ils pensent Laurent Philippot, tu vois.
Bah, toujours, oui.
Alors que quand t'es dans une plus grosse rédaction, l'interlocuteur peut changer. Donc ça aide aussi dans le lien, dans le lien avec les gens pour trouver des choses. Donc les reportages, on n'a pas de thématique imposée. C'est vraiment, on veut être une radio, on essaie d'être dans l'air du temps. C'est-à-dire que on peut se poser la question le matin en conférence de rédaction, qu'est-ce qui fait l'actu et de quoi les gens parlent ?
Oui, c'est ça. Et puis comme de toute façon, tu te promènes sur le territoire, tu sais de quoi les gens parlent.
Bah oui.
Parce
oui,
que
oui.
Tu le vis aussi ce territoire.
Moi,
en fait,
je vois,
tout simplement.
Mes bureaux sont à Évreux. Il m'arrive quand même quand j'ai rien à faire, parce que ça arrive aussi, parce que c'est un métier. On se dit pas, il y a ça et. D'aller me balader une demi-heure, trois quarts d'heure en ville, prendre un café, écouter, dire tiens, là j'ai vu ça, il y a ça, puis tu croises quelqu'un, tu sais que, et voilà, c'est aussi ça, c'est du réseau.
Je te propose une pause musicale d'ailleurs, Kamaou, ce qui a sorti il y a quelques jours un morceau, et puis on revient juste après, parce que j'aimerais bien savoir comment, maintenant qu'on sait comment tu attrapes tes infos, j'aimerais bien savoir maintenant comment est-ce qu'elles sont vraies, ces infos.
Ouf.
On en reparle juste après. Kamaou.
My best for rich. I'm hydrated, I've been waiting to impress a witness. I ain't been outside in a month of Sundays just for this. I got dressed for this, watch me work, ha. I got a beast mode, originated on the east coast and elevated to the cosmos. I've been meditating on this with my eyes open since I was like 5. So I got skills to pay the bills, to put the meals up on the table. I done spilled sweat in the fields and I done built something fatal. Look at my face, do I look like I'm playing? Do I look like I came this far to not go Super Saiyan? I got the billion abilities and the affinity for diminishing my Achilles. I've been trying to stay still like tea leaves, but I've been concocting Picasso's. I got the castles with the caskets, the things that I killed for the masses. It's a famine and I'm glad that they got mad this just to release. Wait a minute.
Niggas wasn't giving me enough, it was down for a bit. My energy can touch every household. Why my enemies stuck with their mouth closed? Part of my back and part of my pettiness. Part of my wrath and part of my readiness. Part of my path is parties with ketamine, but all y'all laugh. That's part of my edginess, ayy. Petties don't say I'm a lovable menace. And counting me out, but the struggle is finished. I get a new text every couple of minutes. She saw that I'm up on the fuck with a winner. I'm tripping off shrooms, I'm tripping off acid. Ripping cocoons, you witnessed the flapping. Been in the rooms, you spit with the dragons. Safe to assume that we've been the last
look at my
ones.
Face, it looked like a painting. Certified trapper, but I look like I'm ancient. I look like I'm peaceful and I look like I'm patient, but I will slap a nigga with the same hands that I pray with. Stop playing. Wait a minute.
Kamau avec un morceau encore sorti très récemment. Il n'est pas avare de sorties régulières. C'est un artiste sur lequel j'attire votre attention en particulier.
Le bien reste à venir. Le bien reste à venir. La matinale de Principe Actif et d'HBR. De 8h à 9h.
De 8h à 9h.
Et nous sommes toujours en direct avec Laurent Philippot, journaliste à France Bleu. On a discuté, échangé sur cette notion de proximité, cette notion de service public aussi. On y reviendra sûrement parce qu'on n'a pas tout dit là-dessus, mais on est toujours pris par le temps et ça c'est un crève-cœur. D'ailleurs, cette histoire de format, France Bleu, il y a une histoire de format et il faut tout raconter des fois en 3 minutes, en 2 minutes.
Oh là, 3 minutes, vous êtes large.
Ah oui, c'est là où nous on a cette chance d'avoir 1 heure, mais du coup en 3 minutes,
effectivement,
comment on fait ?
Nous, le reportage le plus long, qui s'appelle Le Plus, c'est un reportage qui fait 2 minutes, 2 minutes 15.
Ah ouais.
C'est le plus long. Bah, comment on fait ? On angle ces sujets, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout raconter. Parce que sur chaque histoire, il y a plein de choses à dire. Donc, il faut choisir. Donc là, c'est aussi le journaliste qui va choisir. Il y a des choses, parfois c'est évident. Puis il y a des choses où la sensibilité du journaliste, son vécu, va faire qu'il va parler plutôt de ça que de ça. Donc oui, les formats, par exemple, pour être à peu près clair, une interview, chez nous, c'est 45 secondes dans les journaux. Dans les journaux, ouais. Un papier, là, c'est ce que quand le journaliste raconte quelque chose, c'est maxi 1 minute. Et un enrobé, donc c'est là où on enrobe la voix de l'intervenant par la voix du journaliste. C'est 1 minute 15. Bon, moi, je dépasse souvent.
C'est ce que j'en ai un sous les yeux là qu'on va écouter après, qui fait 2 minutes 20. Hein.
Voilà. Clairement. Alors, c'est le reportage de 2 minutes. Il y a une tolérance jusqu'à 2:30 avec le lancement.
Ah,
donc,
oui.
Moi, je dis, celui qui lance le sujet, donc il le présente. Il a qu'à parler plus vite, comme ça moi je peux faire un reportage un peu plus long.
Ça c'est, alors le lancement c'est quelque chose que tu prépares pour le journaliste.
Moi je l'écris pour le journaliste présentateur, après lui il le réécrit à sa sauce parce que chacun a une façon de parler différente, il y a des gens qui vont faire des phrases très courtes, d'autres plus longues, d'autres
Puis il y a le style aussi.
Il y a le style.
Ouais. Je vois Stella qui sourit parce qu'elle a fait des chroniques pareil où elle faisait des relances. Elle écrivait notre texte pour qu'on puisse. C'est comme ça qu'on avait bossé. Elle écrivait sa chronique, mais elle a besoin de relances dans sa chronique ou d'angle ou autre. Elle les écrivait et puis quand elle nous les filait, c'était pas la même chose qui ressortait.
Mais moi je me souviens tout au début parce que moi je n'ai pas fait d'école de journalisme. J'ai été formé sur le terrain par mes piges et ça c'est plutôt une bonne formation. Les gens me disaient, je sortais de la fac. Et les gens me disaient, non mais tes phrases. Non mais arrête avec des que, des qui, des dons, des machins. En gros, à la radio, tu écris comme tu parles. C'est pas toujours évident d'écrire. Et c'est pas aussi évident toujours aussi de parler comme on parle à la radio.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Non, mais c'est un vrai exercice de pratique. Et puis, il faut que ce soit naturel, mais tout en étant travaillé.
Moi, il y a des gens qui m'ont dit au début, t'as une voix de radio, c'est pas la même. Et effectivement, on n'a pas la même voix. Normalement, on devrait pouvoir avoir la même voix, mais c'est jamais évident.
Non, c'est jamais évident. Avant de poursuivre, je te propose que nous écoutions ce fameux enrobé d'1 minute 30 avec la marge de manœuvre de 2 minutes 22. Un reportage que tu as fait sur des pestels. Ça parle de lin. Je propose qu'on l'écoute et puis qu'on revienne un petit peu dessus. Comment ça s'est construit, comment ça s'est fait, comment on en arrive à ce résultat.
Allez, volontiers.
Reportage signé. C'est comme s'ils disent, hein. C'est reportage signé Laurent Philippot.
Chez les deux Pestels, le lin, c'est une histoire de famille. Depuis 1850, ils taillent le lin, c'est-à-dire qu'ils séparent les différents composants des tiges, la filasse, les étoupes, les anas, les graines et la poussière. Le Pestel a investi 20 millions d'euros dans 3 bâtiments de 13 000 mètres carrés, non sans une certaine émotion pour son président, Marc de Pestel.
Je regarde la photo qui est en face et je vois mon père. Il serait très fier de voir ce que nous sommes en train de faire.
À la fin de l'année dernière, Marc et son frère Vincent ont transmis l'entreprise à leurs enfants. C'est la 5e génération, mais la transmission a commencé il y a bien longtemps pour le directeur du taillage du Vexin, Romain de Pestel.
Avec Valentin et puis Margot, depuis qu'on est tout jeune, on passait nos week-ends ensemble, sans parler de mon frère, puisque on était également tout le temps ensemble. Et on a grandi ensemble, on a commencé par faire les travaux de récolte, on a ensuite travaillé un peu sur les lignes de production, et puis ça montre également notre enthousiasme, ça fait voir à nos producteurs, à nos clients, que c'est une entreprise d'avenir. Il y a des enjeux, maintenant on va les prendre un par un, et puis on va faire développer notre groupe encore plus qu'il l'est aujourd'hui.
Entreprise d'avenir, car le lin est une fibre d'avenir, même s'il ne représente que 0,9% du textile mondial. De plus en plus de grandes marques se mettent au lin, histoire de verdir leur image avec un lin cultivé en France. Et les consommateurs aussi s'y mettent, notamment en Chine depuis 2 ans, comme l'explique Marc de Pestel.
Le fait que le lin soit de plus en plus demandé, le prix est monté et ça devient, par voie de conséquence, de plus en plus intéressant pour le producteur de faire du lin. Aujourd'hui, la fibre, cette fibre naturelle, éco-responsable, elle reçoit un écho de la part du consommateur final, très important, qui fait que donc nos clients ont besoin de plus de lin et nos producteurs sont intéressés de faire du lin. Si d'un côté on a plus de paille et de l'autre côté qu'on a un besoin de fibre plus important, il fallait donc monter une usine, chose que nous avons fait.
Pour les agriculteurs, une usine de taillage à côté de chez eux, c'est une satisfaction. Maxime Pluchet cultive 35 hectares dans le Val d'Oise voisin, près de Magny-en-Vexin.
Ça donne du sens à ce qu'on fait, puisqu'en fait, ça évite au lin de faire des kilomètres et des kilomètres. L'arrivée du lin est assez récente sur le secteur, donc je pense que c'est aussi pour ça que De Pestel a voulu fluidifier les flux et éviter de faire des allers-retours vers la Seine-Maritime. Donc je pense qu'il y a des gains logistiques derrière pour eux et ensuite qui nous seront répercutés.
Grâce à cette usine, c'est un bilan carbone plus bas, l'équivalent de 1400 camions en moins par an sur les routes normandes.
Alors là, c'est un des derniers reportages que tu as produit. Intéressant pour le coup, parce qu'on parle du lin, on parle de la localité, on parle de proximité, mais ça s'ouvre aussi sur finalement des choses beaucoup plus internationales, enfin qui pourraient concerner tout le monde. C'est-à-dire qu'à Marseille, si on écoute ce reportage, il y a la partie locale dont on s'en fout un peu à la limite. Mmh. Quoique c'est quand même une histoire humaine.
Moi, c'est ce qui m'avait intéressé dans ce reportage, c'est-à-dire que quand on est invité, là on était invité, il y avait beaucoup de journalistes, il y avait beaucoup d'agriculteurs qui étaient présents. Tu te dis qu'est-ce que je vais faire de... Ils inaugurent une usine qui fonctionne depuis presque un an. Comment je vais le faire? Est-ce que on parle du lin? Est-ce qu'on parle des machines? Est-ce que ça intéresse les gens de parler des machines, du taillage? Parce qu'on a visité, avant on a visité toute la chaîne, on nous a expliqué, là il y a ça, il y a l'enrouleuse, il y a ceci, il y a cela. Et puis en discutant avec les gens, on s'aperçoit que c'est une famille. Là, il y a 4 enfants, il y a leurs 2 pères, mais que depuis 1850, toute la famille est dans le lin, et de père en fils ou de père en fille, on se transmet l'entreprise. Et quand on entend Romain, un des fils, dit ben voilà, des gamins, on allait le week-end, on bossait dans le lin, on était sur la chaîne d'assemblage, et puis pour nous, c'est essentiel. Tu comprends que c'est certes un chef d'entreprise, mais qu'il y a un lien. J'allais dire presque charnel avec ce lin. Donc, je pensais que c'était intéressant de raconter cette partie, mais ça suffit pas. Et le lin, c'est quand même, on se rend pas compte ici, hein, quand on est dans l'heure, mais la Normandie est, je crois, le premier producteur d'Europe de lin, avec un souci, c'est-à-dire qu'on a du lin qui est produit ici, qui est taillé, qui est peigné, mais jusqu'à présent, alors ça commence à changer. Il y avait pas de filature. Donc oui, le lin partait en Asie, Chine, oui. Puis pour revenir ici, aberration quand même.
Tout à fait. Ouais.
Et voilà, donc après, par exemple sur ce reportage, pour donner un peu les coulisses, on n'avait pas énormément d'interlocuteurs. C'est-à-dire que pour l'entreprise, on nous a dit, ben voilà, c'est ces deux personnes-là et personne d'autre qui parle.
Oui. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller faire le tour de l'atelier.
Un vieux et un jeune, voilà. Pour parler un peu trivialement.
Donc voilà. C'est les cartes que tu
mais
as
après,
en main pour ton
moi, je
reportage.
Me suis dit,
ouais.
Voilà, je me suis dit aussi, bon, on peut pas entendre que les gens de Pestel, parce qu'il y a tous ces agriculteurs qui viennent amener, et puis donc finalement, on a trouvé un agriculteur. L'interview de l'agriculteur, par exemple, je l'ai fait avec un... On peut citer d'autres radios?
Oui, carrément.
Avec Tanguy Papin de Sweet FM, qui était là aussi. On a interviewé ensemble cet agriculteur, Maxime, parce que pour eux, c'était important de se dire, on a une usine maintenant. On peut amener notre lin dans cette usine. Il va plus dans l'usine au Bocas, en Seine-Maritime. Et puis pour eux, le lin dans le Vexin normand, il y en avait très très peu avant. Et maintenant, petit à petit, les surfaces. Puis bon, là, on le voit encore, hein, ces petites fleurs bleues, c'est magnifique, hein, quand on se promène.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ton reportage, je sais pas si tu l'as écrit comme ça, mais il y a une partie technique, il y a tous les mots techniques que tu emploies au démarrage. On apprend des choses sur les mots techniques.
Moi, je me suis dit, théiage. On l'entend, ce mot, mais est-ce que tout le monde sait ce que c'est que le théiage? Après, tout simplement, j'ai fait un petit sondage à la rédaction. Enfin, j'ai dû appeler une collègue. Tiens, tu peux me dire ce que c'est que le théiage? Oh, ben, c'est un truc avec le lin. Oui, mais.
Mais quoi?
Mais quoi? Donc, je me suis dit, bon. Soit j'avais le choix, je m'étais le fait expliquer par un des dirigeants du groupe ce que c'était que le théiage. Il l'expliquait, mais tu sais, comme les gens passionnés, il me donnait l'explication en 35 secondes.
Et tu sais, il t'en fallait deux secondes.
Et je me suis dit, bon, ben, je vais le dire moi dans ma voix. Je sais pas si on comprend que voilà, c'est séparer la fibre et qu'il y a différents, voilà. Et puis voilà, c'est au moins, je me dis, parce que c'est important de, je me souviens d'un reportage où, qui n'a rien à voir, hein, mais dans le reportage, je parlais de la Teurgoule. Je crois que c'était un reportage chez David Gallienne, le chef à Giverny. Puis il avait dit, il propose une Teurgoule revisitée. Dans l'article, alors pas dans l'article radio, à l'audio, mais on fait aussi du web. Et dans l'article, j'avais fait un lien hypertexte pour expliquer ce que c'est, avec une recette de la Teurgoule. Et mon chef de l'époque, qui était pas du coin, dit, ah ben merci, parce que moi, la Teurgoule, je savais pas ce que c'était. Hop, j'ai cliqué sur le lien et comme ça, j'ai appris.
C'est hyper important ça, parce qu'il y a le sujet central et puis il y a tout ce que l'auditeur ou le lecteur peut apprendre plus, et ça c'est pas négligeable.
Alors après, juste parce que toi tu l'as remarqué, les auditeurs pas forcément, moi je suis réputé pour quelqu'un qui monte à la hache, on dit, donc on entend quand même très souvent les coupes. Des fois, elles s'entendent un peu plus que d'autres.
C'est ça. Oui, ça, on se faisait des signes pendant l'écoute du truc. Effectivement, tu montes à la hache. Bah, t'es de l'époque du ciseau et de la colle.
Exactement. C'est ça. Et des scotchs. Et passer au numérique, mon bon monsieur. C'était facile.
J'imagine. Mais, donc voilà. Oui, et puis, on sent qu'il y a une découpe dans ce reportage. Il y a la partie technique, il y a la partie humaine, économique également. Mmh. On fait un lien avec l'écologie. Et puis, on entend plusieurs lieux de montage. Est-ce que ça s'écrit, ça, ou finalement, ça se fait un peu naturellement, parce que nous on se rend compte à Principe Actif quand on fait des reportages, alors nous on a des formats beaucoup plus longs qui nous laissent beaucoup plus c'est 40 minutes 20 minutes le reportage qu'on a fait
oui, on en a diffusé à peu près quoi
15-20 minutes quelque chose comme ça. Voilà, donc voilà, on a d'autres, alors nous plutôt on invite à emmener l'auditeur avec nous en fait, hein. C'est il a fait la visite avec nous ce jour
là là par exemple sur ce reportage. Mais effectivement t'as différentes ambiances, l'agriculteur on l'entend dans la salle où il y avait tout le monde, donc c'est pour ça qu'il y a ce brouhaha. Les deux dirigeants de l'entreprise, on a été amenés dans un bureau. Moi, ce que j'aurais voulu faire, mais c'était, après on le raconte pas aux auditeurs, mais comme ils inauguraient ces chaînes de production, ce qui aurait été intéressant, c'était d'entendre du bruit des machines. Mais pour l'inauguration, les machines ne fonctionnaient pas.
Mais c'est parce que ça, c'est important aussi quand du on bruit. Fait la radio, parce on n'en a pas parlé, mais la radio, c'est de l'imaginaire avant tout. C'est on emmène les gens avec nous.
Nous sommes la radio, c'est des yeux aussi.
Mais c'est ça. C'est
yeux, on peut avec des bruits. Moi, c'est ça que j'adore dans la radio, c'est-à-dire que la radio, tu peux l'écouter en fermant les yeux et imaginer. Et en fait, moi, j'ai l'habitude de dire qu'un journaliste radio, c'est les yeux et les oreilles et le nez même de l'auditeur. Parce que pour amener quelqu'un, par exemple, sur un plan social, quand il y a les salariés qui vont bloquer l'entreprise, quand tu parles de cette odeur de merguez sur le barbecue, bah, tout de suite, les gens, pof, ils l'ont. Parce qu'une odeur de merguez sur le barbecue, tout le monde sait ce que c'est.
Et
voilà. Et tu as aussi un reportage olfactif, là.
Et là, d'un seul coup, les gens sont avec toi.
Ils sont en essaye, en tout cas.
Oui, non, mais c'est ça. Je prends l'exemple, il y a très peu de temps, parce que je prends un parti Stella qui a fait son premier reportage il y a 15 jours, 3 semaines, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Sur l'IUT d'Evreux, à l'occasion d'une recette de cuisine qui avait été inventée par des étudiants. Et puis, quand on arrive, on pensait faire un reportage, une visite, quoi. Puis finalement, les étudiants avaient décidé de nous équiper, de nous faire faire cette recette.
Ah, c'est génial, ça.
Ah, ben ça, c'est génial. Et donc, du coup, Stella, avec son enregistreur, elle était... Et finalement, le parti pris, c'est d'enregistrer dès le bonjour. Ça a été ça, Stella.
Oui, c'est ça.
C'est dès le bonjour, on nous entend mettre les blouses, on nous entend discuter dans le vestiaire et tout ça. Et là, on se dit, on emmène l'auditeur avec nous.
Il y a ça, effectivement, il y a des reportages. J'ai des confrères, alors plutôt en Radio Nationale, mais qui sont très, très forts sur ces reportages immersifs. C'est-à-dire que tu montes avec eux en voiture, t'entends le claquement de la portière, il va sonner à l'étage, bonjour, et puis la dame parle, et puis je suis avec ma chine. Alors ça demande une réflexion avant. C'est-à-dire que, parce qu'il faut, pour avoir une continuité sonore, il faut déjà que tu saches, avant et pendant le tournage du reportage, comment tu vas le monter. Mais c'est génial quand t'es sur ces reportages de...
C'est un peu l'école Mermet, enfin, en tout cas, c'est ça que moi qui m'a donné envie de faire la radio, alors faire une pâle copie au démarrage, hein, ouais. Et puis après trouver ton style.
C'est vrai que ces reportages immersifs, c'est vachement bien.
C'est en 3 minutes.
Nous, on fait aussi des trucs des fois, alors rarement, mais j'ai testé pour vous.
Oui.
Et ça, c'est rigolo aussi, parce qu'on essaye de se mettre à la place de l'auditeur, du téléspectateur, du lecteur. Et on fait ça sur certains trucs de sport, par exemple.
Oui, alors ça, alors il y a aussi dans les techniques journalistiques, il y a ce qu'on appelle le gonzo journalisme aussi, où finalement le journaliste va plus raconter son expérience face à l'événement que finalement à quelque chose de technique ou autre. Ça va être vraiment l'expérience du journaliste. Ça se fait plus en écrit quand même, en presse écrite, mais ça peut aussi se faire sur d'autres
formats. Moi, je l'avais fait il y a quelques années quand l'agglomération d'Évreux expérimentait son plan vélo. Il y avait eu un point presse et on était parti avec le maire, des élus, on était une vingtaine, des journalistes. On avait fait tout le tour de Gravigny à Saint-Michel. Et moi, là, finalement, par exemple, là, j'avais raconté mon expérience parce que dans la forêt de Saint-Michel, vouloir en prendre des photos sur le vélo, enregistrer du son tout en pilotant le vélo, je me suis cassé la gueule. Le câble du vélo électrique, parce que c'était des vélos électriques, s'est cassé. Et je me suis retrouvé avec un vélo qui fait 25 kilos dans la forêt de Saint-Michel et il fallait aller jusqu'à la Madeleine. Donc ça, je l'ai raconté. J'ai dû appeler le camion d'assistance. Ils sont venus me chercher parce que je pouvais pas remonter la côte de la Madeleine avec ce vélo. C'était impossible. J'en avais déjà plein les pattes.
Et ça, effectivement, c'est les styles, les formes journalistiques.
Et après, chacun a son style. Et moi, on me dit... moi, apparemment, j'ai un style. Enfin... Chacun a son style, mais moi, a priori, j'ai un petit truc un peu décalé. Des fois, on me dit, on a vu un sujet, mais ce sujet, c'est pour toi, parce que toi, on sait que tu vas nous le faire. Il y a le style Lolo.
Bah voilà, écoute, c'est plutôt sympa, ça, d'ailleurs. Quand on connaît ton sujet, au style, c'est plutôt sympa. La question de l'information, parce qu'on parle de reportage et compagnie, mais au bout d'un moment, on peut te raconter ce qu'on veut. Est-ce que tu envoies tout ce qu'on te raconte? Est-ce que finalement, n'importe quelle personne peut créer sa réalité ou créer sa vérité et puis toi, tu l'envoies, parce que c'est ce qu'on t'a dit.
Non, bah c'est justement là, quand on parlait de service public, où là, on a aussi une mission, je trouve. C'est-à-dire que... moi, je prends toutes les infos. Après, selon qui la donne, je vais pas y accorder le même crédit. Nous, on a généralement, lorsqu'on veut, on a une info, on la vérifie. Puis on essaye de la vérifier. On dit que généralement, il nous faut 2 sources. Hein, la première, puis la deuxième qui va la confirmer.
Ce qui est pas toujours évident quand même de confirmer ses sources.
Ah ben oui. C'est pas toujours évident parce que après sur des choses un peu touchy, les gens veulent pas forcément s'exprimer. Après on a des sources qui peuvent être institutionnelles. Si c'est la police, la gendarmerie, le procureur de la République, le préfet qui dit une chose, a priori.
Ça a plus de valeur que.
C'est pas que ça a plus de valeur, c'est que tu peux dire que la source est crédible quand même.
Oui, tout à fait.
Après, à Radio France, il a été mis en place en 2015, ce qui s'appelait à l'époque, en 2016, l'agence France Info, qui s'appelle maintenant l'agence Radio France, qui est une agence interne, un peu comme, on va dire, l'AFP, Reuters, AP, où on certifie les infos que nous diffusons sur le groupe Radio France. C'est-à-dire que il y a une dépêche AFP qui sort. On donne pas l'info tout de suite. On va aller vérifier que cette info, même si c'est l'AFP qui la donne, que cette info est
vraie.
L'agence France Presse. C'est arrivé, par exemple, il y a quelques années, plein de médias avaient annoncé le décès de Martin Bouygues. Et il n'était pas mort. Ce qui est un peu con de dire à l'antenne il est mort et puis finalement une demi-heure après il va dire ah excusez-nous il est ressuscité.
Donc, il a changé d'avis.
À Radio France par exemple on préfère être en retard d'une demi-heure sur une info importante mais qu'elle soit sûre, sourcée. Et par exemple le réseau France Bleu fait partie des sources de certification pour les chaînes nationales. C'est-à-dire que nous, on est leur, bah, leur proximité en région.
Vous êtes leur source.
Bah oui, parce que nous, si on publie quelque chose, ça veut dire que nous, des mêmes, on l'a déjà vérifié. Donc pour eux, ça veut dire que c'est bon.
Mais il arrive souvent sur des infos nationales, enfin en tout cas une info qui s'est passée quelque part de grande importance, qu'en fait on entend de la source de France 3 Régions, qui est citée en source, parce que ça c'est important effectivement de citer les sources pour la véracité de l'info.
D'autant plus dans le monde actuel où les auditeurs, téléspectateurs, internautes, lecteurs s'informent différemment. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus la grand-messe du 20h de TF1, de France 2, le journal de...
Où ils avaient le temps de vérifier l'info sur la journée.
Oui, oui. Ben
non, mais c'est
maintenant, vrai. Les canaux d'information sont tellement importants que les gens vont aller s'informer sur TikTok, sur Instagram, sur WhatsApp. Il y a plus en plus de chaînes, même à Radio France, hein, qui ont leur chaîne WhatsApp, même en local, hein, le groupe 76 Actu qui regroupe plusieurs à une chaîne WhatsApp. Et comme il y a plein de sources, finalement, moi, j'accorde encore du crédit au travail journalistique, parce que tout le monde peut finalement se déclarer journaliste. Et moi, j'y mets aussi ce souci de vérification,
Puis d'éléments d'analyse, le journalisme, c'est peut-être aussi de donner les éléments de pensée à la personne qui va écouter, non? Est-ce qu'il y a ça quand même dans cette notion
de journalisme? Moi, je ne suis pas trop là-dedans. C'est-à-dire que pour moi...
Un fait tout court, ça peut suffire.
Moi, je le vois comme ça. On est très, très peu dans de l'éditorial ou de l'analyse. Moi, je me dis, on donne l'élément brut, les faits, rien que les faits. Et après, à l'auditeur de se faire son idée.
Alors, sans forcément induire, parce que je voulais qu'on garde une dernière partie, parce que tu fais de la télé aussi maintenant. Depuis quelques années, tu fais de la télé.
Alors,
aussi,
de temps en temps,
chez France 3.
Avec France 3, parce qu'on est, c'est l'autre service public de l'audiovisuel. Donc, on se retrouve notamment dans le cadre des élections. Alors, il paraît qu'il y a des élections en ce moment qui n'étaient pas prévues, je sais pas quoi, des élections législatives. Alors déjà, il faut dire aux gens, allez voter dimanche, parce que c'est important.
Hein. Tout à fait.
Il y a le droit de vote, donc, et aussi le devoir de vote, je pense. on fait des débats pour les législatives. Donc, j'en ai co-animé hier soir. Deux.
Ce débat va durer 45 minutes avec deux thèmes principaux que nous avons choisis avec Grégory. Entre ces deux thèmes, une carte blanche, elle vous est personnelle. Les autres candidats pourront réagir à vos propositions. Et pour terminer, une minute pour tenter de convaincre les électeurs. Une minute et pas une seconde de plus, on veille au grain.
Alors là, on est dans un exercice qui est totalement différent quand même. On est loin du reportage. C'était toi qui présentais hier soir.
Je vous présentais avec Grégory Tellu de France 3. Alors, et là, je me suis rendu compte, mais je l'avais déjà vu parce que j'avais déjà fait ça. La télé, mais c'est une machine. C'est-à-dire que tout est au cordeau, au millimètre, t'écris. Les deux débats faisaient 45 minutes.
Ouais.
On y a passé une journée avant l'enregistrement.
C'est à préparer, à écrire,
à chercher des infos, à écrire, tout est écrit.
Alors, là. Un lancement, oui, ça s'écrit.
Ouais, mais Grégory, lui, toutes ses interventions étaient écrites. Alors après, il y a ce qui n'est pas écrit quand tu veux faire réagir.
Oui, un rebond, ce qu'on appelle le rebond. Voilà. Ouais.
Mais tout est écrit et tout est timé. Moi, j'étais là co-animateur, donc je me préoccupais pas des horloges. Mais Grégory, dans son oreillette, attention, 30 secondes, il en avance de 20 secondes, lui, il est en retard d'une minute. Jingle dans 30 secondes. Enfin, c'est
un exercice particulier parce qu'en fait, il est encadré par la loi déjà. Mm-hmm. C'est ultra cadré par la loi, les temps de parole, les représentativités également. Ça a fait couler de l'encre d'ailleurs dernièrement parce qu'il n'y a pas les Républicains par exemple.
Sur ces débats, il y a un candidat par exemple qui a écrit à France 3 en disant « Je n'ai pas été invité, je ne trouve pas ça normal. » Et puis en radio non plus. Moi, je sais que j'ai répondu à quelqu'un d'autre qui disait « Mais pourquoi il n'y avait que 4 candidats, ils étaient 8 ?»
Oui.
Je dis « Mais en radio, avoir les 8 candidats, ça veut dire 8 candidats plus 2 journalistes pour les interviewer, ça fait 10 personnes, déjà techniquement. »
C'est compliqué.
On n'a pas les moyens de mettre 10 personnes autour d'une table parce qu'on n'a pas 10 micros. C'est aussi con que ça. Et puis pour l'auditeur, quand tu as le support de la télé, tu peux suivre, il y a écrit le nom, il y a les images. Ouais. Au bout de Si t'as 10 intervenants, mais tu sais plus qui parle.
Il y a que France Culture qui fait ça et on sait plus qui parle.
Ouais, ouais, non, mais c'est compliqué.
Non, mais c'est vrai, hein, pour le coup.
C'est pour ça que, par exemple, à Grégory, hier soir, comme lui est journaliste télé et moi radio, je lui avais dit, dès que tu relances un candidat, dis, quel parti c'est.
C'est ça, ouais, ouais. Mais c'est des techniques en radio, souvent, on va glisser dans la phrase, comme on le disait tout à l'heure, Laurent Philippot, que, machin, on remet les noms, tu sais, voilà, c'est ça. Non, mais tu sais, on remet les noms, on remet les choses et tout. C'est pas ce support-là, en télé, ça marche autrement.
Quand tu prends en cours.
Oui, oui.
Moi, ça, rien ne m'énerve plus que quand je suis, sur une radio, et que j'entends un invité, et je dis, qui c'est, et puis t'attends 5, 6, puis des fois, au bout de 10 minutes, tu sais toujours pas qui est l'invité. Puis après, une fois que tu le sais, tu reprends dans ta tête ce qui a été dit.
Exactement, ouais.
Alors que si, tous les 2-3 minutes, on peut dire, monsieur machin, mademoiselle truc,
Et ça se glisse dans une phrase tranquillement.
Et hein. C'est facile.
Ouais, ouais.
C'est important de savoir.
Mais ça, c'est des techniques aussi. Oui, mais ça, ce sont des techniques. Donc, du coup, ouais, un débat comme ça, on est sur de la politique, c'est hyper encadré, légalement. Éditorialement aussi, c'est assez périlleux comme exercice.
Il faut mettre une cravate en plus.
Oui, il faut mettre une cravate, une veste. Mais a priori, ça a fait il y a eu grand succès sur ta cravate
ça,
et ta veste.
Les gens m'ont dit, ça change de Jacouille la fripouille.
Et puis c'est sortir de l'ombre aussi pour quand on fait de la radio. On aime bien ne pas être transparent presque.
Bah ouais.
Il y a ce côté-là quand même en radio, d'être invisible.
J'aime bien ce côté radio, c'est-à-dire que tu laisses fonctionner l'imaginaire de l'auditeur. Petite anecdote, tout au début de ma longue carrière, je suis allé une fois à France Inter. Et à France Inter, dans le couloir, il y avait, je sais pas si c'est toujours le cas, les portraits des présentateurs vedettes. Et j'en vois une dont j'adore la voix. Je vais pas dire son nom parce qu'elle est toujours à l'antenne. Et je dis, oh, c'est elle. Mais je l'imaginais absolument pas.
Moi, ça m'a fait comme ça avec Pascal Clark.
Ah oui.
Pascal Clark, j'entendais sa voix, j'adorais. Et quand je l'ai vu, presque déçu de l'avoir vu. Tu vois,
Et elle a été déçue quand elle t'a vu ou pas?
Je ne crois pas qu'elle avait vu. Mais c'est terrible en fait de se dire parce qu'on se fait un imaginaire même.
La journaliste l'imaginait totalement autrement. Puis je me dis et ce qui fait que j'aime toujours sa voix, mais maintenant c'est plus pareil.
J'ai la même chose avec Pascal Clark, c'est terrible. Hein. Elle me renvoyait un truc particulier parce que c'est aussi ça la radio, des voix, une façon de t'emmener, un
des
phrasé
voix comme,
aussi.
Tu vois, si on reprend le service public, on aimait l'émission ou pas, mais des voix comme celle de Macha.
Oui.
Il y a ce qu'on appelle des voix de radio, tout comme il y a des physiques de radio.
Tout à fait. Nous, on a opté côté physique de radio. Hein. C'est exactement ça. Je voulais revenir juste 2 secondes sur les exercices plus délicats, comme là, hier. Ouais. Là, c'est tout frais. Hier, t'avais 4 représentants politiques qui venaient tous vendre leur soupe, exactement. On était 2 secondes avant sur une info vérifiée. On sait bien que la politique, des fois, ça va être compliqué de vérifier en temps réel aussi. C'est hautement difficile, ça, d'aller en temps réel avoir des politiques et pas pouvoir les arrêter en disant non, ça c'est faux ce que vous avancez.
Tu vois, là, il y avait la rédactrice en chef qui était en régie, qui aurait pu faire ce qu'on appelle du fact-checking, la vérification d'informations. Après, globalement, sur les débats, les candidats ont vérifié les infos entre eux en disant monsieur, conseil régional, vous avez voté ça, c'est faux. Et c'est Après, nous, quand on est animateur du débat, moi, j'ai pas le temps d'aller vérifier parce que notamment il faut écouter, il faut voir les temps de parole. Mais effectivement, il arrive que des politiques, mais aussi d'autres gens, mais souvent des politiques disent n'importe quoi. Alors, soit tu le sais parce que t'as bien préparé, mais tu peux pas aussi avoir une étendue de champ de connaissances sur tout. Après, ça peut se faire après, mais c'est compliqué. Mais c'est vrai que c'est des fois ils peuvent dire n'importe quoi.
Sur un plateau comme ça, quand les micros se coupent, quand les caméras se coupent, qu'est-ce qui se passe?
Là, il n'y a pas eu grand-chose.
Il n'y a pas eu grand-chose, non? Parce que des fois, on imagine, quand on est auditeur, on se dit, waouh, le ton est monté, les choses se sont dites. Des fois, il y a eu même
c'était plutôt cordial, déjà, hier soir, les deux. Alors, le premier débat, non, le deuxième débat était un peu plus mouvementé que le premier, mais c'était très cordial, très respectueux. La semaine d'avant, ils avaient enregistré les débats pour 2 circonscriptions de Seine-Maritime. Là, ça a été un peu plus, virulent.
Ouais.
Virulent au point où parfois tu comprends plus rien c'est pénible. Parce que quand t'es auditeur ou téléspectateur, qu'il y a plein de gens qui s'invectivent, qui vocifèrent et que t'es obligé de dire madame, messieurs, calmez-vous. On est à la radio, on est à la télé. Non, là, ils étaient plutôt cordiales, mais ils n'ont pas traîné. C'est-à-dire qu'une fois que c'est fini, au revoir, et puis ils ne sont pas tapés dans le dos et...
Contrairement aux reportages de terrain à l'année, où bien souvent il se passe des choses. Ouais. J'avais envie de finir en disant, souvent on boit le coup, on mange le
mais
produit,
oui.
On échange.
Non, mais après ça arrive, truc, tu vois, parce que là, moi, j'ai dans la campagne des législatives avec deux candidats, j'ai discuté avec des candidats un peu de bords opposés différents. Enfin, c'est ça se dit, hein. Vraiment de bords différents. Et dire, oh, mais finalement, quand même, dans la vraie vie, il est sympa.
Oui, mais ça n'empêche pas.
Ça n'empêche pas.
Ça n'empêche pas, tout à fait. Laurent Philippot, mot de la fin, il nous reste 40 secondes. Quand on voit bien cet amour de la radio, cet échange avec les gens, avec lesquels
tu fais les reportages. Ici.
À nous, oui, mais toi aussi, tu le sais bien, tu sais très bien faire. Ouais. Justement, c'est peut-être ça, la qualité première du journaliste de terrain dont tu fais partie.
C'est écouter.
C'est écouter, mais mettre à l'aise aussi les gens.
Ah ouais, mais je me souviens d'une interview, on va aller vite, avec
Philippe... J'ai un autre chrono sous les yeux, t'inquiète.
Avec Philippe Delerme, l'écrivain, le père de Vincent.
Ouais.
J'étais allé chez lui à Beaumont-le-Roger pour un de ses bouquins, une heure d'enregistrement. Et à la fin, il m'a dit, mais je sais pas pourquoi je vous ai raconté tout ça, mais peut-être parce que j'étais bien.
Eh ben ça c'est beau, ouais. C'est quand il arrive ces moments-là, c'est parfait. Merci beaucoup Laurent Philippot,
merci,
journaliste
JT.
À France Bleu, d'être venu dans nos locaux. Ça me fait vraiment très plaisir de t'avoir eu ce matin.
On écoute Principe Actif, hein, c'est important.
Eh ben ça fait plaisir. Merci beaucoup Laurent Philippot. Nous on se quitte là-dessus, rediffusion à 11h. Restez à l'écoute de nos programmes parce qu'ils sont cools.